trésor de la connaissance des Écritures, ange, être surhumain ou céleste qui sert de messager à Dieu. L'hébreu la, j, m, et le grec angelo, a, gelo, indiquent que ces êtres agissent également de manière décisive pour accomplir la volonté de Dieu dans le monde. Mais ces deux termes s'appliquent également aux êtres humains en tant que messagers, 1 Roi 19, 2, 1h13, Luc 7h24. Les anges sont mentionnés près de 300 fois dans les Écritures et ne sont que sensiblement absents de livres tels que Ruth, Néhémie, Esther, les lettres de Jean et Jacques. L'Ancien Testament dès le début, les anges faisaient partie de la hiérarchie divine. Ils étaient des êtres créés, psaume 148.2, psaume 148.5, et étaient des témoins exubérants lorsque Dieu a créé le monde, Dieu 38.7. Par nature, ils étaient des entités spirituelles et n'étaient donc pas soumis aux limitations de la chair humaine. Bien que saints, les anges pouvaient parfois se comporter de manière stupide, Job 42.18, et même se révéler indignes de confiance, Job 15.2.15. Ces qualités ont probablement conduit à la chute de certains anges, dont Satan, mais la Bible ne contient aucune description de cet événement. Lorsque les anges sont apparus dans la société humaine, ils ressemblaient à des hommes normaux, Genèse 18.2, Genèse 18.16, Ézéchiel 9.2, et ne venaient jamais habillés en femmes. Quelle que soit leur forme, cependant, leur objectif général était de déclarer et de promouvoir la volonté de Dieu. À de rares occasions, ils ont agi comme des agents de destruction, Genèse 19h13, 2 Sam 24h16, 2 Rois 19h35, etc. Parfois, les anges s'adressaient aux gens en rêve, comme dans le cas de Jacob, Jean 28.12, 31.2.11, et pouvaient être reconnus par les animaux avant que les êtres humains n'en prennent conscience, comme dans le cas de Balaam, Nu 22.22. Collectivement, les messagers divins étaient décrits comme l'armée angélique qui entourait Dieu, 1 Roi 22.19, et louait constamment ses majestés, Psaume 103.2.21. Le Seigneur, leur commandant, était connu des Hébreux sous le nom de Seigneur des armées. Il semble y avoir eu une sorte de hiérarchie spirituelle entre eux. Ainsi, le messager qui a instruit Josué se décrivait lui-même comme commandant de l'armée du Seigneur, Josué 5, 14 à 15, bien que cette désignation puisse aussi signifier que c'était Dieu lui-même qui parlait à Josué. Dans Daniel, deux anges qui interprétaient les visions n'étaient pas nommés, 7.16, 10.5, mais d'autres visions furent expliquées à Daniel par l'ange Gabriel, qui fut chargé par une voix d'homme d'entreprendre cette tâche, 8.15 à 16. Lorsqu'un messager céleste apparut à Daniel au bord de la rivière Hiddekel, Tigre, il parla de Michael comme de l'un des principaux princes, Daniel 10h13, Daniel 10h21. Cet ange puissant présiderait à la fortune du peuple de Dieu dans les derniers temps, 12, 1. Par la suite, il fut considéré par les Hébreux comme leur ange protecteur. À l'époque post-exilique, le terme messager décrivait les fonctions d'enseignement du prêtre, ML 2.7, mais plus particulièrement de celui qui devait préparer le chemin pour le Messie du Seigneur, ML 3.1. Deux autres termes relatifs aux êtres spirituels étaient importants à diverses époques de l'histoire d'Israël. Le premier était chérubin, une forme plurielle, conçue comme des créatures ailées, Exode 25.20, et mentionnée pour la première fois en relation avec l'expulsion d'Adam et Ève d'Éden, Genèse 3.2.24. Hormis leur fonction de gardien, rien n'est dit sur leur caractère. Lors de la construction du tabernacle du désert, Dieu ordonna que deux chérubins en or soient placés au sommet du propitiatoire ou couvercle de l'Arche d'Alliance pour le protéger. Ceux-ci furent connus sous le nom de chérubins de la gloire, et 9, 5. Des motifs de chérubins ont également été incorporés dans le tissu du rideau intérieur, Ézéchiel 26.1, et dans le voile du tabernacle, Exode 26.31. Salomon plaça deux chérubins en bois plaqués de feuilles d'or dans le lieu très saint du temple, regardant vers le lieu saint. Ils mesuraient 10 coudées, environ 14 pieds, de hauteur et leurs ailes mesuraient 5 coudées, environ 7 pieds, de longueur. Des fouilles archéologiques au Proche-Orient ont montré à quel point le concept de créatures ailées était populaire dans l'Antiquité. Le trône d'Hiram à Byblo, vers 1200 avenue J, C, était soutenu par deux créatures à visage humain, corps de lion et grandes ailes protectrices. C'était au-dessus des chérubins que trônait l'Éternel des armées, 1 Sa 4, 4. Les séraphins étaient également considérés comme ailés, dans la vision d'Isaïe, ils étaient stationnés au-dessus du trône du Seigneur, 6, 1 à 2. Ils semblaient posséder une figure humaine et avaient des voix, des visages et des pieds. Selon la vision, leur tâche était de participer au chant des louanges de Dieu de manière antiphonique. Ils agissaient également d'une manière non précisée comme moyen de communication entre le ciel et la terre, Ésaïe 6, 6. Les créatures vivantes d'Ézéchiel 1, 5 à 14 étaient décomposées de parties humaines et animales, de caractère typiquement mésopotamien, et elles semblent avoir représenté la toute-puissance et l'omniscience de Dieu. Les apocryphes à la fin de la période post-exilique, l'angélologie est devenue un élément important de la religion juive. L'ange Michael était censé être le patron du judaïsme et les écrits apocryphes nomment trois autres archanges comme dirigeants de la hiérarchie angélique. Le chef d'entre eux était Raphaël, qui était censé présenter à Dieu les prières des juifs pieux, 1 Tobie 2, 15. Uriel a expliqué à Enoch plusieurs de ses visions, 1 Enoch 21 2.5 à 10, 27 2.2 à 4, a interprété la vision d'Esdras de la Jérusalem céleste, 2 Esdras 10 2.28 à 57, et a expliqué le sort des anges déchus qui auraient épousé des femmes humaines, 1 Enoch 19 2.1 à 9, Confergence 6 2.2. Gabriel, Michel, Raphaël et Uriel, 1 Enoch 40, 3, 6, rapportèrent à Dieu l'état dépravé de l'humanité et reçurent les instructions appropriées. Selon la pensée contemporaine, Gabriel était assis à la gauche de Dieu, tandis que Michaël était assis à la droite, 2 Enoch 24, 1. Cependant, la principale préoccupation de ces deux anges était censée être respectivement les missions sur terre et les affaires au ciel. Dans le judaïsme rabbinique, ils revêtaient un caractère qui, bien que parfois dramatique, n'avait aucun fondement factuel dans la révélation divine. Le Nouveau Testament dans ce contexte de croyance aux anges impliqués dans les affaires humaines, il n'était pas surprenant que l'ange Gabriel soit choisi pour rendre visite à Zacharie, le prêtre officiant dans le temple, pour l'informer qu'il allait devenir père et qu'il devait nommer son fils Jean, Luc 1, 11 à 20. Gabriel n'est pas mentionné ici comme un archange, le terme grec archangelo, ajkavgelo, apparaissant seulement dans 1 Thessaloniciens 4, 6 pour décrire un ange exécutif son nom, et aussi dans Jude 9, qui fait référence à Michel l'archange. 6 mois après son annonce à Zacharie, Gabriel est apparu à Marie pour l'informer que Dieu l'avait choisi pour devenir la mère de Jésus, le Messie promis, Luc 1, 26 à 33. Point. Rien dans le comportement de Gabriel n'est incompatible avec les enseignements de l'Ancien Testament sur les anges. Il a été souligné à maintes reprises que, tout comme ils étaient actifs au début du monde, les anges étaient également importants lorsque la nouvelle ère de la grâce divine s'est ouverte avec la naissance de Jésus. À 3 reprises, un ange a rendu visite à Joseph dans une vision concernant Jésus, Matthieu 1h20, Matthieu 2h13, Matthieu 2h19. Les 2 premières fois, le visiteur céleste est décrit comme l'ange du Seigneur, ce qui pourrait être une manière de décrire Dieu lui-même. Lors de la dernière visite, le messager céleste a été décrit simplement comme un ange du Seigneur. En fin de compte, cependant, les êtres célestes étaient très probablement du même ordre et remplissaient parmi les humains les devoirs normalement assignés à des anges tels que Gabriel, Luc 1, 19. Il n'y a rien d'écrit sur la forme réelle de ce dernier, mais Zacharie semble avoir immédiatement reconnu l'ange comme un être céleste et fut terrifié, Luc 1, 12. Sa pénalité pour n'avoir rien appris de l'expérience de son ancêtre Abraham, Luc 1h18, Confergent 17h17, ne sera supprimé qu'à la naissance de son fils Jean, Luc 1h20. Lorsque Gabriel annonçait Marie qu'elle enfantera Jésus, Luc 31, elle semble avoir été plus perturbée par son message que par son apparence. La naissance de Jésus a été annoncée au berger de Bethléem par l'ange du Seigneur, et comme il était accompagné de la gloire divine, il pourrait bien être le Seigneur lui-même. Le message de joie ayant été proclamé, l'armée céleste des anges a loué et glorifié Dieu, Luc 2, 13 à 14, pendant une courte période, comme il l'avait fait lors de la création du monde, Job 38, 7, après quoi ils sont partis. Au cours de son ministère, des anges sont venus et ont servi Jésus après qu'il ait résisté aux tentations du diable, Matthieu 4, 11. Encore une fois, alors que Jésus se soumettait à la volonté de Dieu dans le jardin de Gethsémani, Luc 22, 40 à 44, un ange vint du ciel pour le fortifier. À la résurrection, l'ange du Seigneur a retiré la pierre du lieu de sépulture de Jésus, MT 28 2.2, et il a été décrit comme ayant un visage semblable à l'éclair et des vêtements blancs comme la neige, MT 28 2.3. Encore une fois, cet être céleste a rendu un service de réconfort et d'amour à Marie et à Marie de Magdala, qui ont rapporté par la suite avoir eu une vision d'ange, Luc 24 2.23. Dans l'évangile de Jean, Marie-Madeleine a vu deux anges vêtus de blanc, assis dans le tombeau vide, juste avant de rencontrer le Seigneur ressuscité, Jean 20, 12 à 16. Dans les Actes, les apôtres emprisonnés furent libérés par un ange, 5 2.19. Philippe reçut l'ordre d'un ange de rencontrer un fonctionnaire éthiopien, 8, 26 à 28, tandis qu'un autre être céleste apparut à Corneille, 10, 3. L'ange du Seigneur libéra Pierre de prison, 12:7 à 11, et affligea ensuite Hérode d'une maladie mortelle, 12:23. Alors que Paul et ses compagnons étaient sur le point de faire naufrage, l'apôtre les assura de la présence d'un ange gardien, 27:23 à 24. Paul s'est ensuite référé aux hiérarchies angéliques, trône, pouvoir, dirigeant ou autorité, lorsqu'il a proclamé la suprématie cosmique de Jésus, Colin, 15 à 16, confère 1 Pierre 3:22, et a interdit le culte des anges dans l'église colossienne, Col 2, 18, pour tenter d'éviter les pratiques peu orthodoxes. Sa référence aux anges dans 1 Corinthiens 11, 10 était peut-être un avertissement selon lequel de telles choses observent les humains lors de leur culte, et donc les Corinthiens devraient éviter toute conduite inappropriée ou tout manquement à la décence. L'angélologie de 2 Pierre et Jude reflète certaines des traditions juives intertestamentaires concernant les anges méchants. Dans l'Apocalypse, on trouve de nombreuses allusions symboliques aux anges dont le culte est interdit, 22, 8 à 9. Les anges des sept églises, 1:20, sont les représentations spirituelles spécifiques ou les personnifications de ces groupes chrétiens. Un personnage particulièrement sinistre était Abaddon, Apollyon en grec, l'ange de l'abîme, 9, 11, qui, avec ses serviteurs, fut impliqué dans une bataille acharnée contre Michel et ses anges, 12, 7 à 9. Jésus a accepté comme valide les références de l'Ancien Testament aux anges et à leurs fonctions, MT 22:30, mais a parlé spécifiquement du diable et de ses anges, MT 25:41, comme étant destinés à la destruction. Il a favorisé l'idée d'ange au service des croyants, conféré Buneur 14, et soucieux du bien-être des enfants, Matthieu 18:10. Il a décrit les anges comme des créatures saintes, Marc 8:38, qui pouvaient se réjouir lorsqu'un pécheur se repentait, Luc 15:10. Les anges étaient dépourvus de caractéristiques sexuelles, Matthieu 22:30, et bien qu'ils fussent des ministres très intelligents de la volonté de Dieu, ils n'étaient pas omniscients, Matthieu 24:36. Le Christ a affirmé lors de son arrestation à Gethsémani que plus de 12 légions d'anges, au nombre d'environ 72 000, étaient disponibles pour le délivrer, s'il avait voulu leur demander de l'aide, MT 26:53. Il a enseigné que les anges seraient avec lui à son retour sur terre lors de sa seconde venue, Matthieu 25:31, et qu'il serait impliqué de manière significative dans le jugement dernier, Matthieu 13:41, Matthieu 13:49. Enfin, les anges ont établi un modèle d'obéissance à la volonté de Dieu dans le ciel auquel l'Église chrétienne devrait aspirer, confère MT 6, 10. Certains auteurs opposent les êtres célestes aux anges déchus, dont il existe deux variétés. Le premier est constitué d'êtres maléfiques non emprisonnés travaillant sous la direction de Satan et généralement considérés comme des démons, Luc 4:35, 11:15, Jean 10:21. Les seconds étaient des esprits emprisonnés, 2 Pierre 2, 4, Jude 6, parce qu'ils avaient abandonné leur position originelle dans le ciel. Pour les auteurs du Nouveau Testament, ils étaient particulièrement dangereux. La différence précise de fonction et de caractère n'est pas expliquée dans l'Écriture, mais certains ont pensé que ces derniers étaient les fils de Dieu qui cohabitaient avec des femmes mortelles, Jean 6, 1 à 2. Cette vision est cependant strictement conjecturale. Vraisemblablement, ce sont les anges emprisonnés qui seront jugés par les saints, 1 Cor 6, 3. Dans un monde matériel également peuplé d'esprits bons et mauvais, la Bible enseigne que les anges célestes donnent l'exemple d'un accomplissement enthousiaste et résolu de la volonté de Dieu. Ils reconnaissent Jésus comme leur supérieur et l'adorent en conséquence. Les anges continuent d'exercer des fonctions ministérielles parmi les humains, et cette fonction a conduit au concept des anges gardiens, peut-être inspiré par les paroles du Christ dans Matthieu 18, 10. Il n'est pas tout à fait clair si chaque individu a un tuteur angélique spécifique, mais il n'y a certainement aucune raison de douter qu'un ange puisse être chargé de s'occuper du destin de groupes d'individus tels que les familles. Ces ministères célestes seront plus efficaces lorsque les destinataires prévus seront réceptifs à la volonté du Seigneur pour leur vie.